Nicolas Demorand.
Et l'invité du grand entretien ce matin est essayiste, président du cabinet de conseil Altermind, professeur d'économie de philosophie politique à Sciences Po, spécialiste de cette famille de pensée, de ce courant qu'est le libéralisme. Vos questions dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Mathieu Laine, bonjour.
Bonjour.
La semaine aura été marquée par le social, beaucoup de questions à aborder avec vous. Vous, dont on dit que vous parlez tous les jours, ou en tout cas échangez avec le président de la République, président que vous fûtes d'ailleurs l'un des premiers à rejoindre lors de la présidentielle. Avant-hier, mercredi, le discours de Montpellier sur la santé et la pauvreté avait une dimension philosophique sur la société, l'individu, les inégalités de destin, ce que l'État peut et ce que l'État ne parvient plus à faire. Avant d'en venir à ces questions de fond, une de forme, vous qui le connaissez si bien, la vidéo désormais fameuse du pognon de dingue, avec quel objectif pour le président Macron? Déjà, c'est vous qui lui avez soufflé.
Non, mais attendez, d'abord, je ne raconte rien de ce qu'on peut échanger. Il échange avec plein d'autres gens. Donc, ne me donnez pas un rôle que je n'ai pas.
Pourquoi ces mots et cette vidéo?
Alors, dans leur intention, c'est pas à moi de le qualifier. De l'extérieur, très clairement, je pense que vous, comme moi, vous utilisez parfois le mot pognon. Il était dans un autre type de contexte, il n'était pas à votre micro, je pense qu'à votre micro, il ne l'aurait pas dit. Mais moi, ce qui m'importe le plus au-delà du mot, mais c'est un mot qui parle à beaucoup de gens aussi, c'est un mot que l'on comprend, c'est le fait qu'il se soit posé enfin ouvertement la question de ce budget très important pour des résultats qui n'y sont pas. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, en tout cas ça dépend des modes de calcul, mais c'est considérable. Il y a un constat objectif, clair et véritable, c'est qu'il y a un modèle qui s'appelle l'État-providence qui redistribue de l'argent en prenant de l'argent à certains et en redistribuant à d'autres, et que ça ne permet pas le mot-clé que j'appellerais émancipation, qui est surtout, à mon avis, c'est le mot qui est vraiment sorti.
Beaucoup.
Ouais, mais que vous n'avez pas repris dans les grands mots de ce discours, mais pour moi, c'est le mot le plus important.
Ça fait plusieurs semaines.
L'émancipation, c'est pouvoir sortir l'analyse de sa condition. Oui, pardon.
Mais voilà. Comment dire?
Et ça marche pas. Donc, la différence entre le budget et le fait que ça marche pas, à un moment, c'est bien de le dire pour poser un constat et voir s'il n'y a pas d'autres solutions.
Alors, Thomas Legrand, il y a consacré des éditos rares et précis. L'émancipation, donc, est massivement employée par l'exécutif. Ça veut dire quoi exactement aujourd'hui? Vous parliez des millions de pauvres en France,
oui.
De s'émanciper quand on est dans cette situation sociale-là.
C'est l'idée, évidemment, d'être dans une situation difficile et d'avoir une perspective et de pouvoir s'en sortir. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec un économiste péruvien qui s'appelle Hernando de Soto. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le président avant Noël. C'est un homme qui a travaillé, lui, non pas seulement dans les livres et les bibliothèques, mais surtout dans les bidonvilles au Pérou. Il s'est rendu compte que pour ces gens, là aussi, étaient assignés à résidence et ne s'émancipaient pas, au sens où vous naissez pauvre, vous finissez votre vie malheureusement pauvre. Il n'y a pas de destin possible. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les bidonvilles avec du capital mort, y compris ceux qui travaillaient, y compris ceux qui avaient finalement, à partir d'une petite cabane, réussi à la faire monter et à construire une vraie maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lien avec notre système, qui est un système officiel. Il y avait une économie parallèle qui est une économie officieuse. Typiquement, c'est un homme qui a véritablement réfléchi et agi, et qui conseille des gouvernements dans le monde, sur comment on sort de la pauvreté par les droits de propriété. Ah oui, c'est pas de la redistribution, mais il y a plein de gens qui sont sortis de la pauvreté comme ça. On leur a redonné la possibilité de vivre de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, par le travail et par leur capital. Parce que chacun a un capital, c'est une approche très différente de ce qu'on entend d'habitude.
Mais la redistribution, c'est le modèle d'hier, qui marchait peut-être hier.
L'idée n'est pas de faire disparaître la redistribution, il faut un filet de sécurité. Ou alors vous êtes
Là,
je le mesure pas et je serais ravi d'y travailler. Mais un filet de sécurité pour ceux qui en ont besoin. Ou alors vous êtes libertarien, d'accord? Et libertarianisme, il n'y a pas d'État, on n'aide personne. Et là, pour le coup, c'est la loi du plus fort absolu. Et puis si vous êtes par terre, tant pis. Là, c'est pas du tout l'idée. Donc un filet de sécurité. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer que prendre de l'argent à des gens et le redistribuer à d'autres, ça ne marche pas. Donc il faut faire quoi? Sans doute ce qu'ils font là, avec Blanquer et la possibilité de dédoubler les classes, je trouve que ça va complètement dans le bon sens. Parce que si vous prenez les enfants dès trois ans, et pouvoir, là pour le coup c'est 6 ans, mais dès 3 ans vous attaquez tout de suite la difficulté, la différence sociale, eh bien vous donnez la possibilité de vous en sortir par le travail. Mais il y a plein d'autres idées. Bon, une idée que je pousse, et qui a été portée par Vincent, vous savez, c'est Lulu dans la rue. Et donc c'est l'idée qu'on puisse créer une espèce de droit universel à l'activité et au capital. Ça paraît technocratique, c'est l'inverse de ça. C'est une espèce d'anti-revenu universel. C'est quoi ? Ça veut dire que si vous avez... Il faudrait donner la possibilité à chacun de, par le travail, donc vous donner un coup de main sur un déménagement, vous donner un petit cours, vous accompagner une personne âgée, bah de 0 à 500 euros par mois, vous n'aurez ni taxes, ni impôts. C'est pour vous, c'est dans votre poche, c'est vraiment pour vous et vous employez. Ça, c'est le travail. Mais c'est aussi le capital à la Hernando de Soto. Vous avez un vélo ou une poussette. Acheter une poussette, ça coûte cher. Et entre deux enfants, eh ben, vous savez pas quoi en faire. Louez-la. Et le revenu que vous allez obtenir, c'est que pour vous. Eh ben là, c'est l'anti-revenu universel, au sens où on vous donne pas de l'argent contre rien. Vous allez pouvoir travailler et valoriser votre capital.
Le secrétaire général,
c'est pas que les grands riches.
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, disait à ce micro que Emmanuel Macron n'allait pas vers le modèle nordique dit de la flexi-sécurité, mais vers le modèle anglo-saxon, avec des individus ayant de moins en moins de droits et auxquels on demande de se débrouiller seul, disait-il en substance. Est-ce vers ce type d'individu-là qu'on se dirige aujourd'hui dans ce qu'est la pensée philosophique et économique et sociale d'Emmanuel Macron ?
Non, pas du tout. Au contraire, d'abord, la société dans son ensemble bascule, pour le coup, ses rôles, c'est d'une société de statut à une société d'individus. Mais une société d'individus, ça ne veut pas dire une société de monade où chacun vit comme Robinson Crusoe dans son île. Ça n'existe pas d'ailleurs. La pensée de liberté, elle est fondée sur l'idée que chaque homme est différent et c'est précisément par la différence de chacun qu'il y a un échange. C'est la beauté de l'être humain. Vous avez votre spécificité, j'essaie d'avoir la mienne. Il y a des spécialistes de relations internationales dans ce plateau et chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et c'est par l'échange que chacun progresse. C'est une caricature de dire que l'on bascule vers un individualisme égoïste où chacun est dans son côté. C'est pas vrai. Et quand vous avez un président...
Mais est-ce qu'on ne prépare pas un monde plus dur ?
Au contraire. Moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une dureté absolue à considérer que vous avez des dépenses importantes qui sont faites pour des gens qui n'en sortent jamais. Enfin, c'est l'assignation à résidence, c'est quelque chose de terrible. Et donc, moi, vous savez, le capitalisme de connivence, ce serait ceux qui sont tout là-haut s'entraident avec l'aide de l'État. Si c'était ça, pour le coup, je le critiquerais, je peux vous le dire, c'est pas le cas. Et donc, ces gens-là s'entendent, gardent bien leur rente, et puis les autres, surtout, ne perçaient pas le plafond de verre. Ce qui est fait sur l'enseignement, encore une fois, par Blanquer, va dans l'autre sens. Mais il y a ce qui est fait même dans le droit du travail. On le lit mal, mais quand vous assouplissez le droit du travail et que vous réduisez le risque à l'embauche, eh bien vous avez une incitation à recruter, y compris des gens que vous n'auriez pas recrutés si vous aviez des difficultés à le licencier, si cette personne n'était pas forcément de bonne qualité ou travaillait mal ou en tout cas n'accomplissait pas son travail ou votre carnet de commandes s'affaisse. Bah oui, mais redonner de l'air, c'est la possibilité de redonner à chacun la possibilité d'être embauché. Et la meilleure des protections sociales, Nicolas Demorand, c'est d'avoir un emploi. Donc tout ce qui fait, en baissant les impôts, en assouplissant le droit du travail, c'est pas pour qu'à la fin les gens se finissent avec un couteau de boucher à assassiner leurs voisins tellement égoïste, c'est l'inverse.
En soulageant les plus fortunés en France du poids de l'impôt, de différents impôts, quand on met ça avec justement ce que vous venez de dire, à savoir le droit du travail et un certain nombre d'autres mesures, expliquez-moi en quoi c'est disruptif, en quoi c'est différent des bonnes vieilles recettes du libéralisme. Libéralisme économique classique.
Parce qu'il y a dû en même temps.
Mais en même temps
parce
quoi ?
Parce qu'il y a dû en même temps avec Jean-Michel Blanquer, parce qu'il y a dû en même temps avec la formation professionnelle, parce qu'il y a une réflexion aujourd'hui. D'abord, c'est différent par rapport à ce qui s'est fait en France depuis 30 ans, parce que quand vous partez de l'idée qu'effectivement, on va baisser une taxation des dividendes qui atteignait 60, 65, 70, je ne sais plus les chiffres exacts, et qu'on la baisse à 30, il ne faut jamais oublier que le dividende, il est payé après avoir payé les salaires, après avoir payé les impôts, après avoir payé les charges, après avoir payé tout ça. Et donc, à la fin des fins, s'il reste quelque chose, bah, effectivement, si vous taxez trop le résultat de tous ces efforts, vous désincitez à la création d'emplois, vous désincitez à la création d'entreprises, vous cassez la machine. Et ça, pour le coup, c'est difficile. Heureusement qu'on va dans le sens inverse.
Donc les économistes proches et ça d'Emmanuel ne Macron pas. Qui ont planché sur son programme, qui disent qu'il n'y a pas, parmi d'autres, qu'il n'y a pas d'en même temps, se trompent.
Ils ne le disent pas comme ça, ils saluent. Ah non. Il y a toute une première partie de l'analyse qui dit on a vu les dédoublements des classes, on a vu les emplois francs, etc.
Et retrouvons l'esprit de la campagne où c'était vraiment en même temps.
Moi, pour le coup, il y a un certain nombre de... Moi, je pense que l'ambition qui est derrière, celle de l'émancipation, celle de la protection, de la prévention avant de financer les gros risques, elle est toujours dans le discours du président Macron. En revanche, il est certain que si c'est pour revenir, comme il le suggère sur certains points, à des méthodes d'avant qui précisément ne marchent pas, Je peux comprendre que le président ne suive pas.
8h33, Mathieu Laine au micro de France Inter. Intervenez au 01 45 24 7000. Bonjour Annie.
Bonjour.
Voilà, reprenez votre téléphone en main et soyez la bienvenue sur France Inter.
Oui, je voudrais poser une question. Dans cette vidéo, je reviens sur la vidéo mise en scène par l'Élysée, le terme pognon a été employé sciemment par le président. Je voudrais savoir si Monsieur Macron et ses conseillers pensent que les pauvres ne sont pas capables de comprendre un autre mot que ce terme assez trivial de pognon. Pognon. Il y a là, je trouve, une forme de mépris, vraiment, pour ce que l'Élysée appelle les pauvres.
Merci Annie pour cette question, Mathieu Laine.
Et moi, je peux tout à fait comprendre que ça ait pu choquer dans la bouche d'un président de la République, mais pour le coup, il s'exprime comme ça aussi parfois, et encore une fois, comme tout à chacun. Je n'y ai vu absolument aucun mépris, puisque j'y ai vu une réflexion de fond dans la dénonciation d'un système. Après, vous savez, plusieurs fois dans sa vie, il a eu des moments où il a parlé de manière très cash. Et beaucoup de gens étaient un tout petit peu heurtés et on considérait que ça ne se faisait pas. Cela dit, à la fin des fins, il dit des choses qu'on n'entendait jamais. Donc, il le dit parfois sous un air un peu trop technocratique et dans ces cas-là, on dit qu'il est trop techno. Là, il le dit de manière simple, on dit qu'il est trop simple. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, moi, ce que j'aime pour le coup chez lui, mais sans être non plus un porte-parole de qui que ce soit, c'est qu'il n'hésite pas à mettre des mots et à poser des constats avec originalité et sans être tenu par la boussole des sondages. Il est plus porté par des convictions.
On est en ligne maintenant avec Cyril. Bonjour et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors j'étais un petit peu surpris et choqué de ce constat qui est ça ne marche pas. Vous avez dit la redistribution, ça ne marche pas. Le système social français, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ceci quand on sait que c'est précisément, effectivement, tout ce système qui est sans aucun doute perfectible, qui permet de maintenir des gens hors de la très grande précarité qui a touché de façon colossale des pays voisins d'Europe, comme par exemple la Grèce ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut affirmer ceci sans l'étayer en aucune façon, de façon extrêmement péremptoire et très idéologique?
Merci Cyril pour cette question, Mathieu Laine.
Non mais encore, il n'y a pas de péremptoire, encore une fois. L'idée, on a peu de temps, donc il faut expliquer les choses de manière rapide et on peut creuser les choses. Mais vous savez, Prenons du recul. D'abord, le fait que ça ne marche pas, c'est l'idée de dire qu'il y a 9 millions de pauvres et que ça s'aggrave. Si vous considérez que ça marche, pour le coup, pour moi, ça ne marche pas. C'est un système où vous voyez le niveau de pauvreté augmenter, ça ne marche pas. Le deuxième élément, c'est que si vous prenez du recul, vous savez, depuis 1990 dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Donc il y a bien quelque chose là qui marche. Et ce qui marche, c'est pas franchement le communisme, c'est pas franchement le socialisme, mais ça a été l'ouverture à l'économie de marché régulée qui a permis à des gens de retrouver un emploi. Ça, pour le coup, contestez ça si vous voulez, mais c'est quand même un peu difficile. Après, vous savez, Ricoeur disait « l'injustice est plus perspicace que la justice ». Et donc il faut aller sans cesse dans un travail constructif d'intelligence collective et écouter tout ce que les uns et les autres peuvent dire, mais oser chercher un modèle qui évolue sans tout casser.
On retourne au standard. Bonjour Colette.
Bonjour, bonjour France Inter. Merci pour ce que vous faites.
Merci à vous. On vous écoute, Colette.
Voilà, je voudrais demander à ce monsieur pourquoi la théorie du ruissellement dont M. Macron nous a bassiné ne fonctionne pas encore vis-à-vis des pauvres.
Merci Colette pour cette question, Mathieu Laine.
La théorie du ruissellement n'existe pas en
bon,
économie.
Les cordées.
Mais, non, mais quand même.
Les premiers cordées.
Et d'ailleurs, il ne l'a jamais utilisé. C'est important de le dire premier parce qu'on lui attribue une théorie qui n'existe pas. Après, pourquoi? Alors, d'abord, on ne transforme pas la France en un an. Pour avoir des résultats, il faut un certain temps. Mais il y a encore plein d'autres choses à faire qui n'ont pas été faites. Pour vous donner un exemple.
Non, mais là, non, répondez mais... tout de même.
Ah, bah si, bah là, je vous réponds vraiment.
Alors, allons-y. Alors,
comment, pour, si vous voulez que ça marche, il faut en faire plus. Moi, je suis pour l'accélération de ça. Bah, j'ai répondu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Ça vient d'arriver. Il a commencé quand? Il est là depuis un an et les premières mesures n'ont pas été mises en place le premier jour. C'était même impossible. Cela dit, il y a des mesures qu'il faut rajouter. Aujourd'hui, vous avez par exemple la loi Grand Guillaume qui empêche à des gens qui étaient chauffeurs VTC d'être chauffeurs VTC. Pourquoi? Parce qu'une grande compagnie, pour le coup, c'est du capitalisme de connivence, a fait du lobby et a fait créer un examen à l'entrée pour que ces gens-là, qui finalement venaient essentiellement du 9-3 et pouvaient travailler et donc, avec un permis de conduire, ne le puissent plus parce qu'il y a un examen compliqué où on leur pose des questions complètement impossibles. D'ailleurs, les résultats sont tombés, il y a 13% de réussite.
La question,
je réponds,
voilà,
c'est que
allons-y.
Si vous voulez sortir des gens de difficulté ou de l'assignation à résidence, il faut aller oser faire beaucoup plus encore et ouvrir un marché à la concurrence et ne pas permettre de créer des barrières à l'entrée pour des gens qui gardent leur rente, bah c'est permettre à des gens qui n'avaient pas de boulot d'en retrouver un.
En quoi le fait, quand on est très 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 riche, de payer moins d'impôts profite-t-il aux pauvres?
Parce qu'on vit
c'est
dans
ça
une...
la question.
Ah oui, non mais d'accord. Quand
alors,
on vit dans une...
si on peut y répondre,
Nicolas
c'est une vraie question.
Avec plaisir, mais attendez.
Alors allons-y.
Je veux répondre à toutes les questions. On vit dans une société ouverte. Une société ouverte dans laquelle les gens franchissent des frontières pour trouver une sécurité. Et je vais faire une comparaison, et comparaison n'est pas raison, mais j'espère qu'on parlera des migrants, mais on les comprend, ils franchissent des frontières pour chercher une sécurité. Eh bien, les gens qui ont bien réussi dans la vie, parfois même très bien réussi dans la vie, qui au passage ont payé en général énormément d'impôts, et qui ont créé énormément d'emplois, ce qui est normal. C'est à la fin des fins...
Ils migrent si pour vous, échapper à l'impôt, si c'est vous, ça ce que vous voulez dire.
Si vous créez un risque important qu'à la fin des fins, la captation fiscale soit trop importante, ils sont libres, ils s'en vont. Si vous les et vous pourrez pas les retenir. Si vous les perdez, vous perdez ces capacités effectivement à ce que ces gens restent, créent de l'emploi, investissent et dépensent chez nous, recrutent et à ce que les uns et les autres en profitent. Une société dans laquelle il y a plus de liberté et ça veut pas dire pas d'impôts mais moins pas d'hyper impôts, oui, effectivement, vous gardez plein de gens innovants et ça permet à des gens de sortir de la pauvreté ou en tout cas de trouver un travail.
Aline est en ligne au standard. Bonjour et bienvenue Aline.
Bonjour, merci pour ce que vous faites. Ma question à votre invité est relative à sa bonne idée de tout à l'heure de louer sa poussette pendant le laps de temps où on n'a pas d'enfant. Ça me rappelle le système de Airbnb, en moins sympathique parce que sur Paris, par exemple, les Airbnb, c'est forcément des gens qui ont de la surface pour pouvoir faire ces revenus-là. Mmh. Ils ne payent absolument pas de taxes là-dessus. Et je connais même des cas où on est capable d'acheter un immeuble entier pour le transformer en Airbnb.
Merci Aline, merci pour cette question. La petite référence aux poussettes aussi qui déchaîne les auditeurs de France Inter. Le capital, c'est une poussette. Le travail, c'est 500 euros par mois. Ça, c'est François.
Quelle caricature.
Laurie,
quel
donc on ne peut plus prêter sa poussette gratuitement pour aider les plus pauvres.
Si
donc, dans
souhaitez.
Le monde de Mathieu Laine et Emmanuel Macron, l'altruisme ne doit plus exister.
Vous voyez les caricatures.
Non,
c'est
mais écoutez, je vous lis,
les
réactions.
C'est pas grave. Mais j'entends tout. Voilà,
donc il y en a une poussette, c'est 10 euros à l'achat sur le Bon Coin. Pouvez-vous m'évaluer sa valeur locative? Monsieur, savez-vous qu'acheter une poussette d'occasion, c'est 15-20 euros, etc., etc., etc.
Les gens sont choqués. Si l'idée, c'est de considérer qu'il y a de la caricature derrière tout ça ou un côté hors sol. Honnêtement, ça vient de quelqu'un qui est pour le coup un garçon qui consacre sa vie, Charles-Édouard Vincent, à donner un boulot, du travail à des gens qui n'en ont pas et qui sont dans l'extrême pauvreté. Donc je les invite à revenir vers lui et à voir tout ce qu'il fait pour sauver les gens de la pauvreté. Moi, quand j'entends de bonnes idées, de gens qui viennent du terrain, effectivement, j'essaie de les pousser et de les relayer. C'était un exemple parmi d'autres. Mais il y a effectivement des gens qui achètent une poussette, qui achètent un vélo, qui achètent une voiture et dont on aimerait qu'ils puissent, pourquoi pas, en tirer un petit revenu qui serait un complément. Et là, pour le coup, l'État ne viendrait pas le capter.
Ma dernière question, comment pouvez-vous mettre dans la même phrase des migrants qui cherchent la sécurité et qui donc se déplacent dans le monde et d'immenses fortunes qui cherchent à échapper à l'impôt et se déplacent donc dans le monde ?
Je vous ai prévenu avant de le dire, j'ai expliqué que nous étions dans une société, ce monde est obscène à cet égard. Et je n'étais pas là pour dire voilà le monde dont je rêve, c'est bien l'inverse. Donc c'est à la fois je souhaite trouver des moyens.
Mais dire qu'il y a une
forme
d'homologie entre ces deux types de déplacements.
Mais il y a intellectuellement une forme d'homologie au
baroque.
Sens. Mais c'est parce que ça vous choque. Mais il faut avoir un certain raisonnement à cet égard. Je souhaiterais que, un, le modèle évite que des gens partent, alors qu'ils peuvent apporter des choses, et deux, que des gens puissent se développer et déployer dans leur pays, et que nous soyons en capacité véritable d'accueillir les personnes qui souffrent véritablement c'est le droit d'asile, quoi. Et donc là, pour le coup, on a besoin d'accueillir les gens qui en souffrent, qui souffrent dans leur pays. C'est le nouveau monde. C'est un monde qui est une société ouverte, et il faut en tirer les conséquences.
Mathieu Laine, merci.